Quand j'étais à l'université, j'avais une discipline qui s'appelait la communication. Et donc, lors de notre premier cours, en septembre 2007, ça commence à faire quelques années, notre professeur avait écrit en gros au tableau la phrase « Souriez, vous communiquez ». Alors, vu que nous sommes un peu à la veille de la rentrée scolaire, et pour ma part, c'est peu dire parce que je reprends le travail demain, le Seigneur m'a mis à cœur de commencer aussi avec un grand titre sur le tableau pour vous exposer le thème du message d'aujourd'hui. Souriez, vous priez. Ou en d'autres termes, souriez, vous communiquez avec Dieu. En tant que chrétien, bien entendu, nous prions régulièrement, quotidiennement. Mais est-ce que parfois il nous arrive de prendre un peu de recul sur notre vie de prière, sur nos prières, comment nous prions, pour qui nous prions, pourquoi nous prions, et de nous poser des questions simples telles que pourquoi est-ce important pour nous de prier, pourquoi est-ce si vital, est-ce une habitude qu'on a prise parmi tant d'autres, est-ce par motif de bonne conscience parfois, est-ce par crainte ou par peur des événements? Est-ce parce qu'on a besoin de se décharger de nos fardeaux? Est-ce parce qu'on veut être obéissant ou parce qu'on exprime de la compassion aussi pour nos contemporains? Ou est-ce parce qu'on aime Dieu, tout simplement? Alors, prier, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que la prière? En hébreu, le mot prière n'existe pas vraiment. En revanche, la Bible emploie un verbe que l'on traduit par prier généralement, leit palel, qui exprime l'idée de se laisser emplir le cœur de pensées. Ainsi, en priant, nous laissons entrer le Saint-Esprit dans notre conscience et nous réalisons tout ce que Dieu fait et ce qu'il attend de nous. Nous devenons ainsi le canal de sa volonté. En somme, l'objectif est de connaître la volonté de Dieu et de l'accueillir profondément. On retrouve aussi dans la Torah le terme de la même racine consonantique, tefila, qui est davantage utilisé pour ce qui est de l'intercession, de la déprécation, la prière pour le pardon et de la supplication. Et d'ailleurs, c'est de là qu'est tiré le mot tefiline. Il s'agit des phylactères en français, donc ces lanières en cuir accompagnées des petites boîtes qui contiennent des versets de la Torah que les Juifs enroulent autour de leur bras gauche et de leur front pour la prière du matin. Alors ainsi, dans la pensée hébraïque, l'essence de la prière est double. Il ne s'agit pas seulement de demander quelque chose à Dieu de tout son cœur. Ce genre de supplication profonde à Dieu n'est qu'un aspect de la prière. L'autre aspect, c'est de prononcer du cœur, par la bouche ou même sans voix, de manière solennelle, des paroles de louange et d'adoration à Dieu. Et cette double dimension de la pensée hébraïque, eh bien, on la retrouve précisément dans la prière du Notre Père. Les deux premiers versets et la fin du dernier verset, ce sont des paroles de louange et d'adoration à Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et la fin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Et ensuite, donc, les autres versets, par contre, ce sont des demandes adressées à Dieu concernant notre nature humaine. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Dans le texte du Nouveau Testament, le terme grec principalement employé est prosευχή. Ce mot comprend davantage l'intention de formuler des paroles, des bénédictions et des souhaits envers Dieu. Prier, c'est donc en quelque sorte, dans un langage plus actuel, se connecter à Dieu. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, verset 5, Jésus nous dit: Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Dans ces quatre versets qui précèdent la prière du Notre Père, Jésus nous enseigne beaucoup de choses. On y retrouve d'une part la dimension du secret, en grec le terme crypto, qui a pu donner les mots crypte, cryptage, ces choses cachées, tenues secrètes, que seul Dieu et nous connaissons. La notion de secret est liée à une notion d'intimité avec Dieu, là où Dieu veut se révéler personnellement. Et cette intimité avec Dieu, elle est unique et offerte à chacun, pas uniquement à une poignée d'élus, bien sûr. Dans ces versets, il y a aussi cette mise en garde de ne pas multiplier de vaines paroles comme les païens. Autrement dit, ce ne sont pas par nos paroles que Dieu agit, mais bien par sa parole. Et c'est pourquoi nous prions dans le nom de Jésus. Car comme nous le dit Jean, dans le début de son évangile, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Et il nous dit quelques versets plus loin, et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'est donc avec la parole qu'il nous faut nous accorder dans nos prières. La parole qui est vérité et vie, la parole qui a toute autorité dans les lieux célestes et sur la terre, la parole qui nous révèle la volonté de Dieu, Jésus. Nous avons donc besoin de connaître davantage la parole de Dieu afin de sonder les profondeurs du cœur de Dieu. Abraham était un homme qui connaissait très bien le cœur de Dieu. Il croyait en sa parole, il croyait en ses promesses. Il connaissait aussi la bonté de Dieu au point qu'il avait l'intention de sacrifier ce qu'il avait de plus cher à ses yeux dans ce monde. Son propre fils, qui lui-même était la promesse de Dieu. Et l'Épître aux Hébreux nous dit qu'à travers ce sacrifice, il pensait déjà à ce mystère encore non révélé de la résurrection. Et le cœur d'Abraham était rempli d'amour. On le voit notamment lorsqu'il intercède pour éviter la destruction de Sodome. Genèse, chapitre 18, verset 22, on nous dit que les hommes s'éloignèrent, allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant ?» Et ensuite, il s'ensuivra une négociation sur le nombre de justes qu'Abraham ramènera progressivement de 50 à 10. Quelle intercession! Quelle compassion! Abraham connaissait tellement bien Dieu qu'il a été appelé l'ami de Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus, Dieu lui-même venu parmi nous, a dit à ses disciples « Vous êtes mes amis ». Si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. En tant que disciples de Jésus, nous avons ce privilège en Jésus seul d'être appelés amis de Dieu et plus encore. L'Épître aux Romains nous dit que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes effectivement enfants de Dieu, et nous l'avons chanté tout à l'heure. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Moïse, lorsqu'il dressa la tente d'assignation, pouvait parler avec l'Éternel, nous est-il dit, face à face comme un homme parle à son ami. Et en tant qu'enfant de Dieu, il est important de se poser une question. Sommes-nous prêts à tout sacrifier pour lui ? Et notamment à crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. Moïse dit dans le livre du rappel de la loi, le Deutéronome, au chapitre 9, « Lorsque je fus monté sur la montagne pour prendre les tables de pierre, les tables de l'alliance que l'Éternel a traitées avec vous, je demeurai sur la montagne 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain et sans boire d'eau. » Et l'Éternel me donna les deux tables de pierre, écrites du doigt de Dieu, et contenant toutes les paroles que l'Éternel vous avait dites sur la montagne, du milieu du feu, le jour de l'assemblée. Ce fut au bout de 40 jours et 40 nuits que l'Éternel me donna les deux tables de pierre, les tables de l'Alliance. Moïse a donc passé 40 jours de jeûne intégral et de prière sur la montagne. Il a reçu les ordonnances de l'Éternel et il est redescendu avec les 10 paroles inscrites par le doigt de Dieu sur les deux tables. Moïse est resté dans la présence de Dieu pendant 40 jours et 40 nuits. J'insiste un peu là-dessus. Imaginez-vous 5 minutes, vous partez maintenant à la montagne. Vous faites un jeûne intégral et vous revenez ici le 4 octobre avec les tables. Et puis on partagera un repas ensemble. Ça fait un peu long. Hein. Et que s'est-il passé lorsqu'il est redescendu ? Il a constaté le péché du peuple. Et il a détruit les tables. Et ensuite, il est remonté auprès de l'Éternel. Et il dit, je me prosternais devant l'Éternel comme auparavant, 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain et sans boire d'eau, à cause de tous les péchés que vous aviez commis en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel pour l'hériter. Car j'étais effrayé à la vue de la colère et de la fureur dont l'Éternel était animé contre vous, jusqu'à vouloir vous détruire. Mais l'Éternel m'exauça encore cette fois. Moïse a sacrifié la chair, ses passions et ses désirs, sa propre volonté. Il est allé intercéder auprès de Dieu par amour pour son peuple, alors même qu'il était lui-même en colère, il a brisé les tables. Mais il est allé s'humilier lui-même devant Dieu, il est allé porter le joug de son peuple devant Dieu au point de lui dire, Exode 32, verset 32, « Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. » Si l'on revient au chapitre 15 de l'évangile de Jean que je citais tout à l'heure, Jésus nous dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Moïse était pleinement en accord avec cette parole de Dieu. Il connaissait profondément le cœur de Dieu. Il savait que sa volonté était de sauver le peuple qu'il avait fait sortir du pays d'Égypte. Il dit même à Dieu, « Souviens-toi de tes serviteurs Abraham, Isaac et Jacob. Ne regarde point à l'opiniâtreté de ce peuple, à sa méchanceté, à son péché, de peur que le pays d'où tu nous as fait sortir ne dise, c'est parce que l'Éternel n'avait pas le pouvoir de les mener dans le pays qu'il leur avait promis, et c'est parce qu'il les haïssait qu'il les a fait sortir pour les faire mourir dans le désert. » Moïse a sacrifié une bonne partie de son temps pour être dans la présence de Dieu. Il n'a pas regardé sa montre, il n'a pas regardé les circonstances. Et l'exemple parfait, bien sûr, que la Bible nous donne du temps passé avec Dieu dans la prière, c'est sans doute Jésus. Luc, chapitre 6, verset 12, nous rapporte « En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. » Et il passa toute la nuit à prier Dieu. À de nombreuses reprises, les évangiles témoignent à quel point Jésus était un homme de prière lorsqu'il vivait parmi nous, pour accomplir parfaitement la volonté du Père. Il avait besoin d'être dans la présence du Père en prière. Et aujourd'hui encore, dans Hébreux, chapitre 7, verset 25, on lit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Aujourd'hui encore, Jésus intercède. Jésus a dit de lui-même, « Je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Nous connaissons tous ce verset. Ainsi, la prière, ce n'est pas une formule magique que l'on termine avec un « Amen », c'est s'adresser avec vérité et sincérité de cœur, auprès du Père Céleste, auprès du Créateur de toutes choses, en vérité, par Jésus. Et c'est faire abstraction de tout le reste. Dans les 4 évangiles, Jésus commence très souvent ses phrases par « Amen, je vous le dis, en vérité, je vous le dis, en vérité, je vous le dis. » La prière avec Dieu, c'est un moment de vérité spirituelle qui vient profondément du cœur et qui doit passer par l'amour. Et Jean, dans son épître, nous donne des notions très importantes de cet amour. 1 Jean 4, verset 19, nous dit « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Nous n'avons pas, en somme, à aimer Dieu pour ses bénédictions. Nous avons juste à l'aimer, car sans lui et sans l'amour qu'il a eu le premier pour nous, nous ne serions juste pas là pour en parler. La vie qui coule dans nos veines, c'est la première preuve et l'une des plus grandes de l'amour de Dieu. Elle est totalement liée avec l'amour de la rédemption et de la purification par le sang de l'agneau. 1 Jean 4, verset 20 nous dit « Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » Moïse aimait profondément ses frères, bien qu'il n'était pas toujours d'accord avec eux, et bien qu'il était totalement déboussolé par leur attitude. Mais même dans la colère, peu importe les circonstances, il les aimait et il a intercédé pour eux. Jésus nous dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Et c'est intéressant de noter un détail dans le reproche fait à l'église d'Éphèse au début du livre de l'Apocalypse, lorsque le Seigneur, après avoir mentionné la persévérance de l'Église, a dit « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » Ainsi, Dieu pointe le doigt sur le pardon et la repentance, qui sont tellement importants car ils nous perfectionnent dans notre amour, dans l'amour du prochain et dans l'amour de Dieu. Parfois dans nos prières, nous sommes tellement dans l'attente de la manifestation de Dieu que cela nous emmène parfois dans le doute. Je pense que malheureusement, ça nous arrive à tous d'être touchés par le doute. C'est arrivé au meilleur d'entre nous, vous savez. Jésus a dit « Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Et pourtant, en prison, Jean-Baptiste avait besoin d'assurance face aux épreuves qu'il traversait, et je le comprends parfaitement. Et pour y faire face, il a envoyé des disciples auprès du Seigneur, mais peut-être aussi qu'au fond de sa cellule, on peut l'imaginer, peut-être qu'il repensait dans son cœur au jour du baptême de Jésus, à ce jour où il a vu l'Esprit descendre comme une colombe sur lui, et à la voix du Père qu'il a entendu dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Quand nous sommes dans le doute, face à notre espérance, c'est qu'il y a un combat spirituel à mener, car nous ne devons pas sous-estimer notre adversaire. Pierre nous dit dans son épître qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Je pense que les chrétiens, c'est une nourriture qu'ils cherchent à fond. Et il nous recommande de lui résister avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées aux frères dans le monde. Pour résister, il reste tout ce que l'ennemi ne peut pas nous enlever. Notre vie avec Dieu, notre vécu avec Dieu. Tout ce que Dieu a fait pour nous. Tout ce chemin où il nous a précédés. Où nous pouvons dire que malgré les épreuves, il a toujours été là. Car sa bonté pour nous est grande, nous dit le psaume 117, et sa fidélité dure à toujours. Repensons à notre vie d'avant. Repensons à la révélation de Dieu dans notre vie. Repensons au changement qu'il a opéré dans notre cœur. Repensons à tous ces petits détails parfois insignifiants, à tous ces événements miraculeux que nous avons vécu. Repensons aussi au témoignage des frères et sœurs. Et merci Yann pour ton témoignage, merci Laura aussi, parce que ça nous porte, les témoignages des autres nous portent. Habacuc nous dit que le juste vivra par sa foi. Si je m'approprie un peu ce verset, je peux comprendre que celui qui est juste devant Dieu, donc justifié par le sang de l'agneau, vivra par sa foi. Et dans l'Épître aux Hébreux, nous lisons que sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je trouve cette définition de la foi à la fois simple et magnifique. Si je l'adapte à notre sujet du jour, je dirais qu'il faut que celui qui prie Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est la foi dont on a besoin lorsqu'on prie. Cherchons Dieu de tout notre cœur. Suite à l'actualité un peu mouvementée de ces dernières semaines, je lisais récemment le commentaire d'une personne sur Internet qui disait « Maintenant, il n'est plus temps de prier, il est temps d'agir. » Et une autre personne lui a répondu « Eh bien, non, justement, il est plus que jamais le temps de prier. » Et c'est ce que le Seigneur nous dit très clairement lorsqu'il explique que le royaume de Dieu est proche. Et nous pouvons considérer que plus le royaume de Dieu est proche, plus les ténèbres se déchaînent, plus les ténèbres veulent nous extirper de ce royaume. Le Seigneur nous dit dans Luc, chapitre 21, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Et il nous recommande, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, nous dira que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est intéressant. On a à lutter contre des esprits méchants dans les lieux célestes. Et c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, il nous dit, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tout les traits enflammés du malin. Pas une partie, pas quelques-uns, tous les traits enflammés du malin. Toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, l'importance de la parole de Dieu. Faites-en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance, priez pour tous les saints. Comme le dit un chant, quand je combats à genoux, les mains levées vers toi, ô Dieu, la bataille t'appartient. Et j'ajouterai que la victoire aussi lui appartient. Lorsque l'apôtre Paul fit ses adieux aux anciens de l'église d'Éphèse, il leur dit « Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Je pense que c'est aussi un tournant merveilleux à considérer dans nos moments de prière, qu'il y a plus de bonheur à offrir des prières à Dieu qu'à recevoir ses bénédictions. Il n'y a pas de plus grand bonheur que le royaume de Dieu qui est descendu à nous. Il n'y a pas de plus grand bonheur que le voile du temple qui a été déchiré. Il n'y a pas de plus grand bonheur pour l'humanité que la grâce offerte généreusement par Dieu. L'éternité. On ne parle pas de quelques jours de vacances dans un endroit aux aspects paradisiaques selon des normes terrestres qui finissent toujours par prendre fin. On ne parle pas non plus d'une vie de bonheur terrestre, on parle bien de l'éternité auprès de Dieu où plus aucune question, plus aucune énigme ne restera sans réponse et où la vérité sera devenue normalité. Peut-on le concevoir? Dans le psaume 84, nous lisons « Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. » Réfléchissons un court instant à ce verset, et si nos moments de prière les plus merveilleux que nous avons pu avoir dans la présence du Saint-Esprit n'étaient que le seuil de la maison de notre Dieu, et si ce n'était que le seuil de ce que Jésus nous invite encore à découvrir dans notre communion personnelle avec lui, Le Saint-Esprit m'a interpellé à ce sujet il y a quelque temps. Il m'a dit quelque chose comme « Pour connaître la chambre haute, l'effusion du Saint-Esprit, tu dois d'abord bien connaître ta chambre, la prière intime avec Dieu. Entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Dieu qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Sommes-nous prêts à dire aujourd'hui « Oui Seigneur, un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. » Sommes-nous prêts aujourd'hui à renoncer à un jour de notre vie terrestre en l'apportant au Seigneur comme une offrande sur son autel, en sacrifiant notre chair, ses passions et ses désirs pour rendre gloire au Roi des Rois? Parce que le plaisir de lui donner ce jour nous apportera bien plus de bonheur que tout ce qu'on peut imaginer. Pouvons-nous aujourd'hui dire au Seigneur, ce jour il est pour toi. Fais ta volonté. Emmène-moi là où tu désires et je m'y rendrai, à tes côtés, avec le sourire et dans la joie. Amen. Je vais prier un instant. Seigneur, merci. Tu es tellement merveilleux. Ta présence est tellement bonne. Et tu nous rappelles, Seigneur, que nous avons tant besoin de venir à toi, Seigneur. Dans ce lieu secret, dans cette intimité profonde avec toi, Seigneur. Là où tu te révèles et là où tu peux agir en nous, Seigneur. Alors oui, Seigneur, nous te prions, rends-nous dociles, Seigneur. Permets-nous d'être à ton écoute pleinement, d'être renouvelé dans notre vie de foi, d'être renouvelé dans notre vie de prière, Seigneur, avec toi. Pas pour en être béni, mais juste parce que nous avons le désir de t'apporter ce parfum merveilleux, ce parfum odorant, Seigneur, et qui monte jusque dans les lieux célestes. Oui, Seigneur, un jour sur le seuil de ta porte est meilleur que mille ailleurs. C'est tellement merveilleux, Seigneur, cette parole. Seigneur, permets que nous soyons aussi à l'écoute de ta parole, parce que ta parole est vérité, vie, et elle a toute autorité, Seigneur. Que nous ne cherchions pas à avoir autorité sur certaines choses, à essayer de faire les choses par nous-mêmes, mais que nous te laissions pleinement agir, Seigneur, à travers nous. En ton nom, Jésus. Amen.